la langue française est quand même bizarre.
Douce France, j'ai pris de mon enfance.
Pourquoi dit-on un tabouret ? Pourquoi une chaise ?
Bonjour et bienvenue sur RAB, Radio Alliance Brisbane, le podcast de l'Alliance Française de Brisbane. Au programme de ce deuxième numéro, Camille et moi-même, Jérôme, vous proposerons le mot du mois, une chronique linguistique qui ce mois-ci porte sur l'adjectif aviaire, un bref entretien avec Thomas et Hélène qui ont fait le voyage France-Australie en voilier. Ce programme comporte également une page musicale avec Sanseverino et une page cinéma sur Bertrand Blier dans le dernier film « Combien tu m'aimes ?» est au programme du Festival du film de l'Alliance française. Nous retrouverons notre questionnaire de Proust, une rubrique régulière, et conclurons cette émission avec le premier épisode d'un feuilleton intitulé « Le mort des tiercerie », enregistré par l'Alliance française du Manitoba, Canada, dont certains des membres écoutent notre podcast et nous les saluons. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire à podcast, P-O-D-C-A-S-T, at afbrisbane.com. Dans notre chronique sur le mot du mois, nous nous intéressons à un mot que l'actualité a mis en avant. 3, 2, 1. Dans notre chronique sur le mot du mois, nous nous intéressons à un mot que l'actualité a mis en avant et nous penchons sur l'utilisation qui en a été faite sur la toile. Nous citons nos sources dans le script associé à ce podcast. Ce mois-ci, nous aurions pu choisir Chikungunya, ce virus qui affecte plus d'un cinquième de la population de l'île de la Réunion. Au lieu de cela, nous nous arrêtons sur aviaire, en raison bien sûr de la grippe aviaire. Aviaire est un adjectif qui vient du latin avis, oiseau, et partage donc effectivement son étymologie avec avion, entre autres. S'il existe depuis la fin du 19e siècle, c'est aux côtés de grippe qu'il fait aujourd'hui les grands titres dans grippe aviaire. Le groupe grippe aviaire souligne la tendance prononcée qu'a le français d'avoir recours, dès que l'occasion se présente, à une dénomination scientifique. La grippe du poulet est une expression tout à fait compréhensible, mais qui n'est utilisée que marginalement. Grippe aviaire, voire influenza aviaire lui sont préférés. L'anglais, lui, préfère le très simple bird flu. Si l'on reste dans le domaine des maladies des animaux, ayant elle aussi occupé le devant de la scène ces dernières années, on constate que le français utilise fièvre porcine, là où l'anglais utilise pig fever. Le très savant fièvre afteuse, lui, ne laisse que peu entrevoir la foot and mouth disease. Un contre-exemple est la trop célèbre maladie de la vache folle, mad cow disease. Même si dans ce cas, le fait que l'épidémie ait pour origine la Grande-Bretagne nous permet d'émettre l'hypothèse que vache folle soit en fait la simple traduction de mad cow. Ce goût prononcé pour les dénominations à caractère scientifique semble dater du siècle des Lumières. Pour rester dans le domaine des maladies, on constate que celles observées avant cette période ont en fait une dénomination non scientifique qui souvent décrit les symptômes de la maladie plus que la maladie elle-même. Le nom de la maladie est alors très différent en anglais et en français. Et il y a peu de rapport entre measles et la rougeole, chickenpox et la varicelle, et bien sûr, flu et la grippe. Grippe partage la même racine que agrippé et décrit ce qui vous agrippe, qui vous prend subitement. On le retrouve dans l'expression « prendre quelqu'un en grippe ». Grippe aviaire est donc un couple inhabituel composé d'un nom vulgaire et d'un adjectif appartenant au registre scientifique. On trouve sur la toile le plus logique « influenza aviaire », mais dans des fréquences bien moindres. Une occurrence particulièrement pertinente se trouve dans le titre « réapparition de l'épizootie d'influenza aviaire en Asie du Sud-Est, sur le très officiel site du ministère de la Santé française, où la rigueur est certainement de rigueur. Au fait, La grippe aviaire est-elle une épidémie, une pandémie ou une épizootie? Les trois termes lui sont communément associés. Le chronologue, outil permettant de suivre la fréquence d'apparition des mots sur la toile, montre à quel point épizootie a gagné en popularité. Épidémie confine la maladie à une région très définie et aux humains, et ne semble pas appropriée puisque le passage du virus à l'espèce humaine reste rare. Épidémie de grippe aviaire reste l'expression la plus utilisée. La pandémie étant le problème à toutes les espèces. L'épizootie la limite, elle, aux animaux. La fréquence accrue de l'utilisation d'épizootie depuis le début du mois de mars serait-elle un moyen linguistique de se rassurer? Une épidémie qui, elle, nous fait bien plaisir, c'est celle des inscriptions à ce podcast. Vous êtes déjà plusieurs centaines. Une pandémie reste néanmoins peu probable.
Pourquoi avez-vous commencé à apprendre le français ?
J'apprends le français parce que cela me donne accès à toute la culture française. J'ai un très bon ami qui ne parle que français et j'ai beaucoup à échanger avec lui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à partir ?
Donc, ce qui nous a motivé pour partir. Donc, on a des motivations différentes tous les deux. Moi, c'est un rêve depuis toujours. À l'âge de 1 an, je faisais déjà de la voile, donc c'était quand même quelque chose qui était un peu dans le sang. J'ai économisé un peu quand j'étais étudiant et l'idée c'était de faire le tour du monde en voilier et de vivre ça, de voyager beaucoup. Et donc, ce voyage était prévu depuis longtemps parce que j'aimais la voile, j'aimais voyager, donc ça coulait de source en fait.
Et moi, j'avais jamais navigué, mais j'aimais voyager, donc je me suis dit que Thomas a réussi à me convaincre d'essayer de partir en bateau. Je me suis dit qu'il n'y avait rien à perdre, que c'était un voyage à essayer et que soit ça se passait bien et on continuait, soit ça se passait mal et on rentrait. Donc je me suis pas mis la pression, mais l'idée m'a bien plu. Donc c'était la motivation et on s'est dit que si on le faisait pas là, à l'âge qu'on avait, on le ferait sûrement pas après parce qu'on aurait des obligations professionnelles, peut-être des enfants. Donc ça nous a motivés à le faire au plus vite.
Pourquoi avez-vous choisi cet itinéraire ?
Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet itinéraire ? Lorsqu'on fait le tour du monde à la voile ou quand on navigue de longues distances, c'est pas nous vraiment qui choisissons l'itinéraire. La météo, c'est elle qui influence nos directions. Il faut que l'on fasse attention à être à certains endroits à certains moments et il faut au contraire essayer d'éviter certains endroits à d'autres moments. L'itinéraire est influencé par la saison des cyclones dans l'Atlantique, la saison des cyclones dans le Pacifique, les vents dominants dans l'Atlantique, les courants, etc. Donc, c'est la météo qui nous influence les temps de passage et les endroits dans lesquels on se trouve.
Ça, c'est l'aspect plus technique. L'aspect plus voyageur voudrait que... On a envie d'aller partout, à cause de l'aspect technique on peut pas, mais on a essayé de pas rater certains endroits qu'on voulait absolument voir, le Portugal en l'occurrence, entre autres, qui est proche de la France mais qui nous a tirés, les îles du Cap-Vert, et on voulait avoir un petit œil sur l'Amérique du Sud, mais qu'on n'y est pas resté longtemps. Après, on a choisi d'aller dans le Pacifique parce que on s'est dit que c'était une destination idéale en voilier. Qui était difficilement accessible autrement qu'en voilier et qui coûtait très cher à visiter en avion, par exemple depuis la France. Donc là, on a fait le choix d'aller dans le Pacifique pour cette raison-là. Mais après, l'itinéraire, on le construisait un peu au jour le jour. On peut pas dire qu'on est parti de France en sachant exactement où on irait. Donc c'est quelque chose qui se construit au cours du voyage.
qu'est-ce qui vous a le plus manqué à bord du bateau pendant ce périple ?
Alors, ce qui m'a le plus manqué, moi, en fait, pas grand-chose. Un peu les bons plats du terroir en France, mais autrement, il y a pas mal de choses que je me suis assez adapté à la vie du bateau. Je suis un bon amateur de fromage, donc les fromages français m'ont un peu manqué.
Par contre, on avait une bonne cave, donc on peut pas dire que le vin nous a trop manqué, puisque un bateau conserve bien le vin, pour votre information. Mais moi, je peux dire que quelque chose qui m'a un peu manqué, c'est la vie sociale. À bord, on est quand même souvent seul, et les gens qu'on rencontre, on les rencontre pas longtemps, donc on a peu le temps de construire des relations à long terme et de s'impliquer dans des projets de la vie sociale. Donc ça m'a un peu manqué et je suis contente de le retrouver aujourd'hui.
Quel a été votre plus difficile souvenir ?
Alors le plus difficile souvenir, je pense que c'était le passage du canal de Panama, puisqu'on a eu une panne moteur juste avant de rentrer dans le canal et qu'il n'y a aucun autre moyen de passer le canal de Panama qu'au moteur. Donc c'était sur le coup c'était un peu difficile. Bon, finalement on s'en est sorti sans problème, donc on a eu beaucoup de sueur froide, mais ça s'est bien passé.
Pour moi, c'est peut-être aussi le canal, mais aussi la préparation du voyage, qui était physiquement difficile, mais qui en valait largement la peine. Mais c'est peut-être le plus difficile de tout le voyage, la préparation.
Quel a été votre plus beau souvenir ?
Alors, le plus beau souvenir, c'est difficile, mais je pense que peut-être mon souvenir le plus beau, c'était... dans une baie aux Marquises, le moment qu'on a partagé avec un chasseur de cochons qui s'appelait Axel, et on a partagé des moments très très sympas avec lui, et on s'est très bien entendu, et c'était une relation simple et en fait où tout le monde était content.
Mon plus beau souvenir, c'est peut-être les arrivées. Alors la toute première arrivée après la première traversée en Espagne, j'ai l'impression de renaître parce qu'on est arrivé vivant, et pour moi c'était assez extraordinaire, donc un souvenir assez fort. Et l'arrivée aux Marquises après 21 jours en mer, on a senti l'odeur de la terre, et c'était quelque chose d'extraordinaire, assez indescriptible, et donc peut-être le plus beau, mais c'est difficile à qualifier le plus beau du voyage. Beaucoup de choses étaient très belles.
Qu'allez-vous faire maintenant ? Un autre voyage est-il planifié ?
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu la grande question. On ne sait pas nous-mêmes. Avant de partir, on avait une vie assez active. On travaillait dans des entreprises, on courait un peu partout, etc. Personnellement, je ne suis pas sûr de vouloir retourner à ce genre de vie. Donc c'est un peu la question. Un jour, je veux bien retourner ingénieur. Le lendemain, je veux faire éleveur de chèvres dans le Larzac, et le surlendemain, je veux vivre sur une île déserte. Donc c'est vraiment très très compliqué. On se pose beaucoup de questions, et en fait je pense que personnellement ça va dépendre des opportunités lorsqu'on va rentrer en Europe. Quant à notre voyage, oui, moi je serais volontiers partant même demain, ou dans quelques années. Ce serait peut-être quelque chose de bien à faire dans une dizaine d'années, avec en prenant un peu de recul, mais pour l'instant, l'idée, c'est de rentrer en Europe et de redonner une chance à la vie européenne.
Ah oui, ce qu'on s'est dit, c'était qu'en rentrant, on se donne la chance de réintégrer le système. Et si on voit qu'on n'y arrive pas, on repartira. On se dit que si on continue maintenant de voyager, après, on n'arrivera plus à rentrer. Donc c'est un peu l'idée. Et puis, il nous faut retravailler pour avoir de l'argent à nouveau. Donc... voilà, et l'autre voyage, moi aussi je suis partante, mais pas demain.
Chanteur, guitariste et comédien français d'origine italienne, Stéphane Sanseverino est né en 1962. Il a passé sa jeunesse à parcourir le monde grâce au métier de papetier de son père. En passant par l'Europe de l'Est, il découvre la musique tzigane qui devient une passion. Son parcours musical a commencé au début des années 90 avec le groupe Evol, puis s'est poursuivi en solo en 1999 utilisant son patronyme pour nommer le scène. Sanseverino œuvre dans le swing manouche et séduit immédiatement le public français. En 2001, son premier album Le Tango des gens s'est vendu à plus de 50 000 copies et a été récompensé par le prix de l'Académie Charles Cros. Puis, Sanseverino revient en février 2004 avec un nouvel album intitulé Les Sénégalaises. L'année suivante, il remporte une victoire de la musique dans la catégorie Révélation scène et sort un live au théâtre Sébastopol. Sanseverino fait partie de cette génération qui porte haut la chanson française réaliste, avec Gaîté et Mou.
De morts par an, c'est un la vie si célèbre et merdique qui est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur des conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme ça te pec. Cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lutte en poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. I'm rap, develop, zap, tap. Club, we be the high compost. I rock to sleep, I control your ass. So you remember me, to come on, let's do it. That's the way I know how to do it. Yeah, la 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 la.
Votre principal trait de caractère?
La curiosité, mais dans le bon sens du terme.
Quelle est votre occupation préférée?
Discuter avec de bons copains, assis sur une terrasse avec vue sur la mer, de préférence avec un verre de vin à la main. Ou alors, voyager.
Quel est votre principal défaut?
Je suis une angoissée, et c'est un gros défaut.
Quelle est votre principale qualité?
J'ai une bonne oreille. J'aime écouter les autres.
Que détestez-vous par-dessus tout?
L'injustice et le racisme.
Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir?
Avoir une bonne mémoire.
Quels sont vos héros dans la vie réelle?
Nelson Mandela et Coluche.
Vos héros dans la fiction?
Aucun. En fait, il n'y a pas beaucoup de héros dans les livres que je lis.
À part vous-même, qui voudriez-vous être?
Beaucoup de monde, mais pour une ou deux semaines seulement.
Votre devise?
Respect et tolérance.
Vous êtes?
Rebecca Shortfaddy.
Étant le fils de l'acteur Bernard Blier, Bertrand a un héritage cinématographique de poids. Il grandit sur les plateaux de tournage et c'est à seulement 20 ans qu'il devient l'assistant de John Berry en 1959 sur Mambo. Bertrand Blier veut se distinguer rapidement de la nouvelle vague et cherche à imposer un style personnel. Il réalise son premier film à 23 ans, un docu-fiction très remarqué, Hitler connaît pas, aboutissement de témoignages vécus par une jeunesse française et leur vision de l'avenir. Blier est déjà à part, avec un cinéma vérité et une emprise totale dans la réalité. Il dirige par la suite son père, dans son premier long-métrage, Si j'étais un espion, en 1967, qui lance sa carrière. Son style cinématographique s'apparente à un ton cynique et provocateur. Cependant, il est encore mal connu du grand public. Il faudra attendre 1974 pour qu'il rencontre le succès avec Les Valseuses, un film adapté d'un ouvrage qu'il a écrit, mettant en scène Miu Miu, Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. L'humour omniprésent sert d'instrument à une critique acerbe et sociale qui s'érige en véritable contre-culture et contre-choc à Pompidou et Giscard et qui renforce le style de Blier, dorénavant connu par tous. Effectivement, Les Valseuses révèlent une écriture moderne, un regard contemporain, un langage qui poétise le moindre gros mot et un trio d'acteurs éblouissant. La collaboration avec ce trio se poursuivra d'ailleurs avec en 1978 Depardieu et Dewaere dans Préparez vos mouchoirs qui gagnera l'Oscar du meilleur film étranger et en 1979 on retrouve son père et toujours Dewaere dans Buffet froid qui représente à la fois le summum de son humour noir et macabre, le début de son image et de ses scènes abstraites, le délire des acteurs, le non-sens signifiant de ses dialogues et également l'exploration de l'amour, la dépression, la tentation, les sentiments ou encore la sexualité sous toutes ses formes. Par la suite, on retrouve le ton subversif et provocateur de Bertrand Blier en 1986 avec Tenue de soirée, film qui défraie la chronique en abordant les thèmes de l'homosexualité et du trio amoureux, Michel Blanc, Gérard Depardieu et Miu. Malgré le scandale, le film récolte 3 nominations au César et Michel Blanc remporte le prix d'interprétation masculine à Cannes. Blier continue à surfer sur le succès, et en 1989, il réalise Trop belle pour toi avec Carole Bouquet, Josiane Balasco et Gérard Depardieu. Le grand public adhère au style Blier, et le film remporte le grand prix du jury du Festival de Cannes et 5 Césars. La carrière de Blier au tournant du siècle est marquée par un va-et-vient entre succès et échec public. En 1999, son film « Les acteurs » est un échec au box-office, malgré un casting d'exception où chacun joue son propre rôle. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur, Pierre Arditi, André Dussollier, Michel Galabru, entre autres. En 2003, il revient avec « Les Côtelettes » avec Philippe Noiret et Michel Bouquet, qui divise le public cannois au festival et ne rencontre pas le succès escompté, ni public, ni critique. En 2004, il signe le scénario de Pédale dure, la suite de Pédale douce, qui avait été un grand succès surprise, mais une fois encore, c'est un échec au box-office et le film passe vite inaperçu.
Bonsoir.
Combien tu prends ?
150 euros. On va dans un salon et tu me fais ce que tu veux. Le champagne est un plus.
J'ai pas envie de champagne.
Il faut que tu payes une bouteille.
C'est combien la bouteille ?
150 euros.
Combien tu fais de clients ?
Par jour ?
Par jour.
T'es flic ?
Je viens de gagner au loto. J'ai de l'argent net d'impôts.
Combien t'as gagné ?
4 millions 542 000 euros.
J'accepte.
Est-ce que t'acceptes ?
Est-ce que tu vas me proposer ?
Alors que Blier signe un cinéma profondément misogyne qui fait l'apologie de l'amitié masculine, dans Combien tu m'aimes, le réalisateur change d'inspiration, passant des hommes aux femmes, ou plutôt à la femme. En effet, Bertrand Blier a écrit et réalisé ce long-métrage pour Monica Bellucci. L'actrice l'avait profondément marquée par son interprétation dans le très dur Irréversible. Dans Combien tu m'aimes, nous retrouvons l'effet de trio qu'apprécie Blier, avec Gérard Depardieu, Bernard Campan et donc Monica Bellucci, cette dernière incarnant la sensualité. Le réalisateur passe ainsi du thème du plaisir à celui du désir, avec un rôle de femme-objet pour l'actrice italienne, qui suscite le désir de chacun des personnages masculins, et tend ainsi à incarner la beauté universelle. Tout au long de l'intrigue, cette prostituée, à la fois femme de tous et de personne, passe de bras en bras sur un rythme de concert d'opéra, orchestré par Bertrand Blier. The fish doesn't think, because the fish knows. Everything. The fish knows everything.
La pièce que vous allez entendre vous est présentée par l'Alliance française du Manitoba en collaboration avec le studio d'Acapo.
Le mort des tierceries.
Un mystère radiophonique destiné aux apprenants francophones. Chapitre 1. Le café des travailleurs. Vendredi, le 13 janvier de l'année 1925. J'arrive au café des travailleurs, il est à peine 10 heures. Des gitanes blondes.
Au café, inspecteur ?
Comme d'habitude. J'aime l'ambiance des comptoirs lorsque l'odeur du café se mêle à celle de ma gitane blonde. J'aime faire le plein de kawa au zinc et lire les nouvelles du monde. Ce que je préfère avant tout, ce sont les faits divers. Ces petits articles me divertissent et éveillent ma curiosité. Tiens, tiens, voici quelque chose d'intéressant. Hier, jeudi 12 janvier, un meurtre aurait été commis dans la ville de Saint-Georges-de-Noisenay. La police n'a pas souhaité confirmer l'information. Je me demande si ce meurtre est la raison de ma convocation au commissariat.
Vous avez l'air contrarié, inspecteur.
Un petit contretemps. Je crois que je vais devoir changer mes plans pour le week-end. L'entretien avec le commissaire. 14h au commissariat du Quai d'Orsay à Paris.
Ah, inspecteur Stéphane Blanc, j'ai une enquête pour vous.
De quoi s'agit-il, patron ?
C'est du sérieux, à mort, au manoir de Tiercerie, en Gâtine.
Un notable ?
Mieux encore, un garde de la haute qui avait ses entrées dans la politique. Blois, je compte sur vous pour résoudre cette énigme au plus vite et ne pas abruter l'affaire.
Quelle est l'équipe qui est sur l'affaire?
C'est l'inspecteur Michel Clavery qui s'est chargé de constater le décès et d'interroger les suspects. Il a reçu l'ordre de vous seconder dans cette affaire et de vous fournir tous les éléments dont vous aurez besoin. Venez ici demain à 14h pour le rencontrer. Il y a aussi l'archiviste, Paul Patelou, qui travaille sur la biographie du défunt. Il vous proviendrait s'il trouve quelque chose.
Et Alikoui est sur le coup?
Oui. Il vous attend demain matin à la salle Patrière. Tenez. Voici le rapport préliminaire de Michel Clavery.